Rebonjour, donc, puisque je suis déjà un petit peu intervenue. Donc, Caroline, donc, vous a présenté les modifications qui sont actées, présentes dans la troisième édition publiée du format, et donc que vous allez retrouver dans les zones traduites, en cours de traduction, enfin, par le CFU, avec éventuellement, donc, pour un certain nombre d'évolutions, des conseils d'utilisation ou de prudence d'utilisation pour certaines zones. Et donc moi, je vais vous parler, nous projeter dans le futur. Voilà, donc ce dont je vais vous parler, ça ne sera pas non plus une liste exhaustive des évolutions qui ont été décidées par le Permanent UNIMAR Committee depuis 2008, puisque il y a un certain nombre de choses qui sont des points ponctuels, mais c'est pour vous montrer un petit peu les grandes tendances qui se dessinent dans l'évolution du format. Alors, petit rappel sur les facteurs d'évolution, donc vous allez revoir après les mêmes choses que ce qu'a évoqué Caroline tout à l'heure. Donc, premier facteur qui fait évoluer le format Unimark, c'est l'évolution des normes internationales de référence. Donc, et en ce moment, au niveau des normes internationales, donc il y a l'évolution de l'ISBD avec la publication, la préparation de l'ISBD consolidé, dont une première édition provisoire a déjà été publiée par l'IFLA en 2007, mais en 2010 on devrait avoir la publication de la version stabilisée. Et il y a également donc des évolutions, en particulier dans les numéros internationaux d'identification de ressources, et donc dont le format doit pouvoir rendre compte. Ensuite, internationales, il y a les évolutions nationales, et en particulier donc l'évolution des codes de catalogage. Donc il y en a deux en particulier qui suscitent des demandes d'évolution du format. Donc la publication l'année dernière du nouveau code italien de catalogage. Comme l'Italie, nous le verrons, utilise l'UNIMARC comme format de travail, les nouveautés introduites par ce nouveau code ont amené l'Italie à proposer des demandes d'évolution. Et se préparent aussi des évolutions pour pouvoir prendre en compte le code de catalogage qui va remplacer les règles anglo-américaines de catalogage, donc le nouveau code RDA pour ressources, description et accès. Enfin, est lié aux évolutions de notre environnement, un certain nombre de besoins émanent des utilisateurs du format, et en particulier donc les bibliothèques numériques se fondent sur quand même beaucoup les métadonnées des documents reproduits, et donc qui sont gérés dans les catalogues et dans les catalogues en Unimark. Et pour rendre ces métadonnées facilement exploitables, un certain nombre de demandes d'évolution ont été présentées, et c'est une tendance, à mon avis, qui ne fera que se renforcer. Alors, je vais commencer par l'ISBD consolidé. Donc, l'ISBD consolidé, dans sa version définitive, stabilisée, introduit une évolution majeure qui est le remplacement de l'indication générale du type de document qu'on mettait juste après le titre propre dans la zone 1 de l'ISBD par une nouvelle zone qui s'appelle, je vous donne son intitulé en anglais, Content Form and Media Type Area, donc une zone sur la forme du contenu et le type de médiation nécessaire pour accéder à ce contenu. Donc première conséquence, c'est donc cette nouvelle zone zéro apparaîtra tout en début donc de la notice et remplace l'indication générale du type du document. Première conséquence, la sous-zone 200$B qui était réservée à l'indication générale du type du document va devenir obsolète. Et ensuite, cette nouvelle zone, donc, eh bien, il va falloir pouvoir la gérer en Unimark. Alors, sa structure, pour voir comment est-ce qu'on doit la gérer, c'est trois éléments. Ces trois éléments sont obligatoires si applicables. Premier élément, forme du contenu. Deuxième élément, qualificatif sur le contenu, qui est répétable. Et faculté et obligatoire si applicable. Donc dans certains cas, il peut ne pas y en avoir, mais dans certains cas, on peut en avoir plusieurs qui se combinent. Et ensuite, media type, c'est le type de médiation. Et en fait, l'ISBD a défini une liste contrôlée de valeurs qui sont associées à chaque élément. Donc on ne peut pas mettre n'importe quoi. Alors, pour que ça devienne un petit peu plus parlant, je vous ai mis des exemples. Donc, vous voyez que pour un livre, eh bien, on a juste un élément qui dit que c'est du texte, c'est la forme du contenu. On n'a rien de plus à dire au point de vue de la des qualifications sur le contenu, sauf si ce texte était en braille. Dans ce cas-là, je mettrais que c'était en relief. Et je n'ai pas de médiation particulière pour accéder au contenu, il suffit d'avoir mes yeux. Bon. Par contre, si je prends des cartes sur CD-ROM, alors là on voit qu'on touche du doigt une des évolutions par rapport à l'indication générale du type de document, puisque un document cartographique, ça va d'abord être soit un objet, si c'est un globe, soit une image. Et cette image, une de ses qualifications, c'est le fait qu'elle soit cartographique. Je dirais peut-être en plus qu'elle est, si elle était en relief, qu'elle est en trois dimensions. Et là, comme elle est sur CD-ROM, j'ai besoin d'une médiation qui est de type d'un appareillage électronique. Donc, bon, vous voyez le reste, je ne commande pas tout, pour les diapositives, c'est de l'image qui est fixe et elle se trouve qu'elle est projetée. Donc, comment rendre toutes ces nuances en format? Alors, on a un petit peu la même problématique que pour l'indication générale du type de document, c'est-à-dire que c'est une zone qui appelle des listes de codes, donc elle doit pouvoir être exprimée à la fois dans des informations codées, puisque c'est bien des codes qu'il y a derrière, et également, c'est une zone qui va s'afficher en ISBD, donc il faut prévoir une zone dans le bloc de XX pour éventuellement une saisie par le catalogueur sous forme textuelle. Mais pour la meilleure ergonomie des systèmes, l'idéal, ce serait aussi de pouvoir générer cette zone à l'affichage à partir des informations codées. Le problème que pose cette nouvelle zone, c'est que, je vous l'ai montré pour les documents cartographiques, c'est là que c'est le plus manifeste, c'est qu'on n'a pas la même analyse que celle qu'on avait avant pour l'indication générale du type de document. Le point de vue, il est quand même différent. L'indication générale du type de document mélangeait très étroitement le contenu et la forme, et avec un point de vue, on disait d'abord que c'était un document cartographique, et que ce soit un objet ou une image, en une image, on le passait sous silence, c'était traité uniquement dans la zone de la description matérielle. Donc, la position 6 du label qui dit le type de document décrit par la ressource, hein, en termes généraux, et qu'on exploitait dans beaucoup de systèmes informatiques pour générer l'indication générale du type de document dans la zone 200, eh bien, on ne peut pas l'exploiter. On va la garder, elle est intéressante, mais on ne peut pas vraiment se fonder dessus pour travailler cette nouvelle zone. Par ailleurs, cette nouvelle zone zéro, elle est un petit peu différente de celle qui est faite pour coder des informations sur le contenu et la présentation matérielle d'une ressource qui est faite par RDA. Ceci dit, pour préparer cette zone zéro, le groupe de l'ISBD s'est beaucoup appuyé sur les travaux du groupe spécifique de RDA, donc les solutions sont quand même compatibles. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, les présentations qui ont été présentées au PUC cette année et qui seront, n'ont pas encore été, il n'y a pas encore eu de décision de prise, ça sera sans doute l'année prochaine que la prochaine réunion officielle du PUC se sera entérinée. C'est que de toute façon, on va avoir une zone textuelle dans le blog de XX. Qui sera une zone facultative, car elle doit pouvoir être générée à partir des informations codées, sur le même principe qu'un certain nombre de zones de liens génèrent des notes à l'affichage en ISBD. Et donc, pour cette zone qui sera facultative, la structure sera calquée sur celle de la zone 0 de l'ISBD, donc on aura trois sous-zones qui correspondront aux trois éléments de l'ISBD. Donc, c'est simple. Côté information codée, on va définir, en fait, si on a cette nouvelle zone, c'est qu'on part d'une analyse où on veut être souple pour bien articuler à la fois le contenu et le contenant de la ressource. Le contenu, c'est ce qui est justement contenu dans la ressource, donc ça correspond aux entités FRBR qui sont, puisque maintenant les nouveaux codes de catalogage, j'en parlerai un petit peu, sont vraiment calqués sur le modèle FRBR, qui correspondent en particulier à l'entité expression pour le expression et un petit peu œuvre pour la partie contenu et la partie présentation matérielle, type de médiation nécessaire, c'est vraiment le document, la ressource qu'on a en main, donc c'est le niveau de la manifestation. Donc on va créer des zones spécifiques qui vont correspondre à chaque entité FRBR. Et là, on donnera ces informations codées. L'avantage, c'est que l'information, elle est donnée au niveau pertinent, donc le jour où on voudra faire une FRBRisation complète des catalogues, l'évolution sera facile. On va pouvoir avoir une cohérence entre les notices bibliographiques et les notices d'autorité pour ce qui concerne les informations sur les œuvres contenues, les œuvres expressions contenues. Cette solution va nous permettra aussi de, au besoin, gérer plusieurs référentiels, donc c'est-à-dire pouvoir à la fois gérer dans les mêmes zones en utilisant la sous-zone $2 pour le type de référentiel, de pouvoir donner les codes ISBD, de pouvoir éventuellement donner aussi les codes de RDA. Et c'est une structure qui est proche de celle qui est retenue par Marc 21. Il y a quand même un inconvénient, et ça, vous risquez de l'entendre du côté de vos fournisseurs de SIGB, c'est que dans le cas des documents multimédia, multisupport, où en fait, on va répéter les zones, puisque on va donner, décrire la partie texte, et puis éventuellement la partie qui concerne les diapositives qui accompagnent, et puis la partie qui concerne le CD audio. Donc là, on va voir des zones répétées, et qu'il faudra pouvoir à parier. Et donc on va utiliser la sous-zone qui existe pour ça dans le format, la sous-zone $6 pour générer l'affichage si on souhaite générer l'affichage directement à partir des informations codées en particulier. Et ça, les systèmes ne sont pas toujours très très à l'aise pour le faire. Donc voilà pour la zone 0 de l'ISBD, donc c'est quelque chose qui se prépare et sera sans doute dans la prochaine édition prochaine édition anglaise du format. Si on va du côté des codes de catalogage, eh bien on retrouve le modèle FRBR puisque les nouveaux codes de catalogage maintenant prennent en compte de manière très très forte le modèle FRBR, que ce soit le code italien, que ce soit RDA. Donc cette nouvelle organisation de la formation bibliographique donc, va donner d'une part des choses qui vont être gérées dans le format Unimark bibliographique, c'est ce qui correspond à l'entité manifestation du modèle FRBR. Je reviendrai un petit peu sur le modèle FRBR cet après-midi, j'ai pas le temps ce matin. Et par contre, pour les entités qui correspondent au contenu intellectuel ou artistique, ce sont les entités œuvres et expressions, qui elles sont plutôt gérées par des notices d'autorité, donc au niveau du format Unimark A. Et ces liens avec les œuvres et les expressions donc, qui sont contenues dans les manifestations, eh bien, c'est ce qu'on fait en faisant des liens entre les notices bibliographiques et les notices d'autorité via des points d'accès contrôlés. Et en particulier, le lien vers les œuvres, les titres uniformes des œuvres qui deviennent systématiques dans ces nouveaux codes de catalogage, eh bien, vont être gérés par des liens, par des titres uniformes gérés vers l'œuvre. Alors, si je prends les règles italiennes de catalogage, eh bien, elles vont remplacer, qui remplacent donc les anciennes règles, elles sont donc fondées sur le modèle FRBR et d'emblée, elles ont été publiées en 2009, donc tout de suite on a eu des demandes d'évolution du format Unimark, en particulier pour gérer les titres uniformes des œuvres et notamment les œuvres qui ont un créateur, un auteur. Donc besoin de renforcer le couple auteur-titre en rappelant le nom du créateur dans le point d'accès correspondant au titre uniforme de l'œuvre. Et pour gérer, ils ont ceci pour améliorer la gestion des index titres que connaissent bien les bibliothécaires musicaux pour gérer les titres uniformes musicaux. Alors, la question, c'est quelle structure adopter ? Donc, pour les œuvres à la haine, avoir un point d'accès au titre uniforme seul, c'est simple. On a déjà la zone 500 dans le format bibliographique. Quand on a une œuvre qui a un créateur, eh bien, il faut un point d'accès auteur-titre. Et comment bien gérer la marque B ? Pour l'instant, c'est pas très satisfaisant, parce qu'on a d'un côté une zone 700, de l'autre côté une zone 500 qu'il faut arriver à parier. Donc là, on va plutôt préconiser, c'est une proposition qui a été faite par le CFU, de bien garder la zone 500 pour un titre uniforme qui n'a pas d'auteur, et de créer au contraire dans le bloc 7XX un point d'accès de type auteur-titre et un point d'accès qui va être lié à la zone à la notice d'autorité auteur-titre qui existe déjà dans le format Unimark A, c'est la zone 240 du format Unimark A. Donc zone qu'il faudra développer en pourriant l'accès auteur un lien vers la notice d'autorité de l'auteur et en développant les sous-zones sur le modèle de la structuration de la zone 500 pour le titre. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc au niveau de la manifestation, donc de la ressource qu'on décrit, une zone 7 quelque chose, donc 750 par exemple, avec un dollar dans le lien, un lien vers une notice d'autorité auteur-titre qui identifie l'œuvre, gérée donc dans le format des autorités par une notice d'autorité dont la vedette est 240, et qui elle contient un lien vers l'auteur, le créateur de l'œuvre, sous forme d'une sous-zone $3 qui rapatrie un petit peu ce qu'on a vu hier pour les gens qui étaient là, l'expansion dans le Sudoc, c'est-à-dire rapatrie la vedette sous une forme éditée, mais c'est pas là qu'est gérée la vedette de l'auteur. Il y a un autre point en suspens qui va être une nouvelle répartition des points d'accès de responsabilité entre les entités du groupe 1 du modèle FRBR, donc entre l'œuvre, l'expression, la manifestation, puisque pour l'œuvre, on doit avoir les responsabilités de la création, donc l'auteur de l'œuvre. L'expression, c'est tout ce qui est les interprètes, les traducteurs, les éditeurs scientifiques, et la manifestation, normalement, c'est les responsabilités liées à la publication et à la diffusion. Et donc, il y a toute une des évolutions qu'il faudra faire pour, en particulier, les points d'accès liés à l'expression. pour l'instant, il n'y a pas vraiment de place au niveau des notices d'autorité dans, dans l'Unimark. Or, donc, RDA va poser exactement le même problème. L'Unimark est moins directement impacté, mais ça va venir très vite. Donc, parce que l'Unimark est à la fois un format international d'échange et d'autre part, il y a certains pays qui vont passer à RDA qui vont peut-être utiliser l'Unimark aussi. Donc, on va retrouver en fait les mêmes problématiques que celles qu'on a vues, c'est-à-dire celles soulevées pour les accès aux titres pour les œuvres et expressions, et également une articulation entre la description du contenu du contenant qu'on a vu pour la zone zéro de l'ISBD. Et il faudra bien sûr trouver des solutions compatibles avec RDA pour Unimark. Ensuite, dernier point important, les besoins liés aux bibliothèques numériques. Donc, et en fait, le problème soulevé, c'est la gestion des droits qui sont associés à une ressource. Afin de pouvoir gérer directement dans la notice descriptive de la ressource des informations sur les ayants droit de cette ressource, qui sont normalement gérées dans les notices d'autorité. Autorité titre et autorité éventuellement des créateurs et des autres ayants droit. Donc, pour arriver à rapatrier cette information, en fait, le besoin c'est d'avoir dès la notice bibliographique les identifiants qui permettent d'accéder aux métadonnées de droit associées à ces auteurs et en particulier pour les ayants droit, le futur numéro international normalisé pour les noms des parties intéressées dans le cycle de vie d'une œuvre. Donc là, il y a eu des demandes d'évolution du format également pour faire figurer directement dans la notice bibliographique ces identifiants internationaux normalisés qui sont associés à une œuvre et à ses ayants droit. Donc on va avoir création de zones, de sous-zones spécifiques à la fois dans les blocs, dans la zone 500, dans le bloc 7XX et éventuellement pour les œuvres contenues dans le bloc 4XX. Enfin, mais ça c'est plus bénin, on a l'habitude de prendre en compte la révision des numéros internationaux d'identification, donc la révision de l'ISMN, ça s'est déjà acté et ça va bientôt être publié. Ensuite, on aura les nouveaux identifiants qui sont en cours de normalisation à l'ISO, donc le DOI. L'ISCI International Standard Collection Identifier, tout ça c'est pour la partie bibliographique, et dans les notices d'autorité il va y avoir donc ce fameux ISNI et déjà acté l'ISTC, l'ISWC pour les identifiants des œuvres. Donc, comme vous le voyez, l'UARC est appelé à évoluer pour accompagner les mutations en cours dans les catalogues. Donc, première chose, la nouvelle structure de l'information bibliographique conforme au modèle FRBR et également la gestion des bibliothèques numériques. Et tout ça, ce sont des problématiques de fond qui interrogent vraiment la structure du format, l'organisation des informations entre format bibliographique, format d'autorité et qui nécessitent une réflexion approfondie pour avoir des solutions qui soient vraiment cohérentes et pas du bricolage à la petite semaine. Et c'est aussi pour ça que le PUC prend son temps pour réfléchir à fond sur ces dossiers, sur ces demandes avant de proposer des solutions. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des évolutions importantes qui sont à prévoir dans les prochaines mises à jour du format. Bon, mais il faut s'en féliciter parce que c'est quand même la preuve de la vitalité du format, de sa capacité de répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et le CIFU, il travaille très très activement. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je vous ai présenté, pour lesquels le CIFU est vraiment moteur. Merci, et je suis désolée d'avoir été un peu trop...